Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui s'épanche ce soir sur trois thèmes. D'abord, adoption mardi dernier par l'Assemblée nationale du projet de budget 2010. Ensuite, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a annulé mercredi dernier la décision de la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. Enfin, deux Norvégiens accusés d'avoir assassiné le chauffeur Abedi Kassongo sur la route de l'Ituri en province orientale ont été condamnés à la peine capitale hier à Kisangani par la Cour militaire. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Bélard Mouy, il est journaliste éditeur au journal Écho de Danlac, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Albert Omba, journaliste à Tropicana, FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Et enfin, Charles Mukendi, rédacteur en chef à la radio-télévision Debou Kassai, qui émet depuis Mbujimaï au Kassai oriental. Adoption du projet de budget 2010, Jean-Pierre Bemba maintenu en détention, ainsi que la condamnation des deux Norvégiens à Kisangani, tels sont les sujets qui seront l'objet du débat de ce soir. Écoutons comment les différents journaux kinois ont traité ces sujets dans cette revue de presse que nous présente Alain Hirong.
Bonsoir. Premier sujet de cette revue de presse, adoption mardi dernier à l'Assemblée nationale du projet de budget 2010. La Référence Plus souligne le fait que 23% des 6 milliards de ce projet de budget sont injectés dans les salaires, 49% aux investissements et 9% au fonctionnement. Mais plusieurs observateurs continuent de se poser la question quant à l'impact de ce projet de budget sur l'amélioration des conditions sociales du Congolais. Deuxième sujet, Jean-Pierre Bemba, la liberté provisoire s'éloigne. C'est la une du journal La Tempête des Tropiques. Le journal poursuit que les craintes d'une fuite du sénateur du MLC ont obligé la Chambre d'appel à rejeter la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par ses avocats. Ces derniers comptent désormais sur la décision de la Chambre de première instance 2, attendue le 14 décembre prochain. Bemba, pas de liberté. Nouveau rendez-vous le 14 décembre, titre le journal La Prospérité. À en croire ce journal, la bataille juridique menée par la défense de Jean-Pierre Bemba quant à sa mise en liberté provisoire n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Dernier sujet de cette revue de presse, la condamnation à mort de deux sujets norvégiens pour meurtre. Le potentiel écrit que la cour militaire de la province orientale a confirmé la décision du premier juge, c'est-à-dire la peine de mort. Messieurs Molland et French ont été également condamnés à verser solidairement avec l'État norvégien à titre de dommages pour préjudice subi la somme de 501 255 000 dollars américains, dont 500 millions pour l'État congolais, partie civile au procès.
Merci pour cette revue de presse, Alain Rong. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Bélard Mouy, je rappelle que vous êtes journaliste éditeur au journal Écho de Grand Lac, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Et votre appréciation par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Bien, ça dépend d'un journal à l'autre. Pour une fois, si vous me demandez franchement de ne pas user de la langue de bois, les journaux se sont contentés de rapporter les faits tels qu'ils se sont produits. Mais par contre, moi, j'ai été assez quand même étonné de voir comment un journal a pu faire une allusion, une analyse le lundi, déjà, du fait que le Rwanda avait rétabli ses rapports avec la France.
Et quel journal?
C'est le Potentiel. Il a pensé que cela menaçait la CPGL. J'ai lu le journal. J'ai beau chercher ce qui, dans l'article, pouvait expliquer ça. Je n'ai pas trouvé.
Malheureusement,
bon, vous avez demandé de dire quand même comment j'ai analysé la façon dont les confrères ont pu écrire pour le courant de la semaine. Seulement, l'article qui m'a le plus étonné quand même, c'était celui-là. Pour le reste, les autres se sont contentés de rapporter les faits qui se sont produits. Il n'y a particulièrement pas grand-chose à dire là-dessus.
Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Votre appréciation par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Bon, je crois que c'est l'essentiel qui a été dit, sauf qu'il y a des petits dossiers comme celui de Dongo et consorts, et des dossiers humanitaires qu'on n'a pas pu épingler passer par là. Ça, à part ça, bon, il n'y a pas grand-chose encore à ajouter.
Charles Mukendi, vous êtes rédacteur en chef à la radio-télévision Debou Kassai. C'est une radio-télévision qui émet depuis Mbujimaï. Quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine à Mbujimaï d'où vous intervenez?
Mbujimaï, l'actualité, c'est en fait c'était par rapport au départ du président de la République avec le paiement des agents de la mine de Bakwanga pour passer le président était de passage, et alors ils ont trouvé un léger souffle et ils se sont plaints de peut-être de la modicité du salaire parce qu'ils étaient obligés de toucher le 2 mois de salaire, mais ce salaire tel qu'il était donné, c'était le quart du salaire. Et alors bon, quand même, ils ont trouvé quelque chose après plusieurs mois d'expériment, mais ils étaient tout à fait, il y avait de mécontentement par-ci, par-là, parce que le 2e mois tardait à venir, finalement il est arrivé, mais on a payé seulement l'écart, voilà aussi qui a fait qu'il grince un peu le dent.
Merci. Avant d'aborder les différents thèmes de ce soir, nous irons à la Cité de l'Union africaine, où s'est achevé hier jeudi le 3e congrès international de la femme noire. Cette rencontre qui s'est tenue pour la première fois en Afrique avait pour objectif de promouvoir les ressources de la femme africaine pour le développement. Le forum de Kinshasa a débouché sur 10 recommandations qui ont été adoptées. Cette rencontre était patronnée par l'épouse du chef de l'État, Olive Lembe Kabila. Elle a réuni pendant 3 jours des femmes de divers horizons, notamment l'épouse du chef de l'État du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou, et la première dame de la Zambie. Bélard Mbouyi, un congrès qui se tient pour la première fois en Afrique, et c'est la RDC qui l'organise. Et quel tir faites-vous de cela?
Le fait d'organiser un congrès international à l'intérieur de notre pays, c'est tient toujours de la reconnaissance effective du pays qui sort des années d'isolement. Intervenant après plusieurs sommets qui sont passés par ici, la SADC, la CEAC, c'est toujours un plus. Mais concernant particulièrement ce forum qui vient de se terminer, je parle ici sur le plan des principes. Je suis franchement un antiraciste obstiné. Je vois ça, pourquoi on peut regrouper des femmes en fonction de la race. Quel intérêt commun y a-t-il entre une femme noire des États-Unis et une femme noire du Botswana? Il n'y a absolument rien. C'est vraiment deux cultures aujourd'hui totalement différentes. Imaginez que demain, Carla Bruni Sarkozy organise le sommet mondial des femmes blanches. Qu'est-ce que les bien-pensants penseraient de ça? Et demain, ce seraient les Chinoises qui vont faire les femmes jaunes. On va aller où? Je me souviendrai que sur Mobutu, il y avait eu l'idée de faire une ligue des États noirs d'Afrique, l'ALENA. L'idée a tourné court parce que les gens n'ont pas bien compris à quoi ça pouvait bien rimer d'avoir une organisation fondée sur la race.
Oui, Albert Roma, au-delà de ce congrès, n'est-ce pas que c'est la femme congolaise qui est révalorisée après tant d'humiliations subies par toutes ces guerres que le pays a connues?
Oui, je crois que la femme congolaise a eu peut-être au cours de ses assises une occasion d'exprimer un peu tout ce qu'elle a eu comme violence qu'elle a subie pendant toutes ces guerres. C'est dans ce cadre-là que ce congrès avait vraiment son objet d'être, dès qu'elle a pu porter à travers le monde quelles étaient les conséquences de tout ce qu'il y a eu comme guerre qui sont retombées sur la tête de la femme, à tout point de vue, économique, physique et physiologique. Et à part ça, c'est aussi une façon de la femme de s'affirmer, parce que nous allons vers les genders qui, quand des femmes s'organisent à un forum comme celui-là, c'est aussi un pas en avant pour les femmes.
Oui, Charles Mukendi, comment la femme de Mujima a accueilli ce congrès international de la femme noire?
Franchement, je ne sais pas trop bien prendre la place de la femme de Mujima, mais l'actualité est passée, les femmes ont réagi à leur manière. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer toutes, mais du moins, celles que j'ai rencontrées, il y en a qui ont trouvé que c'était un congrès important, mais ça risque de rester une affaire de salon, une affaire d'une certaine élite, alors que dans l'ensemble, dans la majorité, la femme qui est là est en train de souffrir dans la misère parfois la plus atroce. Elle est marginalisée par rapport à ça, et on se demande bien quel impact un tel congrès pouvait avoir sur l'ensemble des femmes, si ce n'est que sur des femmes élites, les premières femmes. Alors les dernières, on ne sait pas trop bien, ça c'est du moins ce que certaines femmes en ont dit.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. Adoption mardi dernier par l'Assemblée nationale du projet de budget 2010. L'Assemblée nationale a adopté au cours de sa plénière de mardi dernier le projet de budget de l'État pour l'exercice 2010. Après l'avoir déclaré recevable le 16 octobre 2009 et envoyé à la Commission économico-financière pour un examen approfondi, le projet de budget pour l'exercice 2010 s'élève à près de 6 milliards de dollars. Comment se présentent les prévisions des recettes du budget de l'exercice 2010 et la réponse avec Céline Couquet.
Dans la nouvelle configuration, les prévisions des recettes du budget de l'exercice 2010 se présentent de la manière suivante. Les recettes proposées par le gouvernement étaient de plus de 470 millions de dollars. Les recettes additionnelles dégagées par la commission sont de l'ordre de plus de 126 millions de dollars, ce qui ramène le projet de budget 2010 à près de 6 milliards de dollars. La commission a indiqué que les recettes additionnelles proviendront essentiellement des secteurs des mines et des télécommunications. Comparé au budget de l'exercice 2009, il se dégage un taux d'accroissement de 84,9%. La commission a signifié que les prévisions des recettes des provinces ont été maintenues comme telles parce que arrêtées des communs accords entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Quant aux recettes extérieures, la commission les a revues à la baisse, soit de 53,4% initialement prévu par le gouvernement à 48,5%. Dans l'ensemble, la commission a consacré 49% aux investissements, 9% au fonctionnement et 23% à la rémunération.
Bernard Mouilly, c'est la première fois que nous avons, que la RDC se dote d'un budget de près de 6 milliards de dollars américains. Et votre appréciation?
Je pense que 6 milliards, de façon brute, absolue, ça paraît quand même un peu assez. Mais au regard des besoins du pays, cela semble quand même assez peu toujours, parce que pas plus tard qu'avant-hier, le Cameroun a adopté, lui, de façon définitive, son budget pour l'année 2010. Eh bien, il s'élève à 5 milliards 100 millions de dollars. C'est peut-être un peu moins, légèrement moins que le 6 milliards, mais le Cameroun, c'est un pays d'environ 14-18 millions d'habitants. Vous voyez, 5 milliards pour 14 millions d'habitants, et nous, 6 milliards pour 65 millions d'habitants, cela semble assez quand même dérisoire. Et quand vous regardez ce qui est prévu pour les rémunérations, les 24% du budget qui sont destinés aux rémunérations, il semble quand même clair qu'il n'y aura pas un fort mouvement d'augmentation de salaire de fonctionnaires pouvant tirer la croissance par la consommation. Ça, franchement, je suis d'avis que 2010, on connaîtra pratiquement un statu quo. Et surtout si l'inflation continue ou son rythme actuel. Vous savez, le budget de l'année dernière avait fixé le taux de change à 560-580. Aujourd'hui, le budget, le taux est de 909, un peu plus, on est vers 100 pratiquement. Donc, cela va réduire sensiblement le pouvoir d'achat des populations. Alors, si on n'arrive pas à freiner cette inflation, alors que le taux prévu pour les rémunérations n'est pas très élevé, je doute fort qu'il y ait une quelconque amélioration sur la santé du fonctionnaire.
Albert Omba, un budget de 6 milliards de dollars américains, c'est quand même une évolution par rapport aux années précédentes.
Oui, il y a une évolution, mais une évolution sur papier, parce que nous avons constaté plus de 5 ans, 6 ans que le budget va en croissance. Je me souviens à l'époque, on avait un budget de 350 millions, aujourd'hui on a un budget de au moins 6, à peu près 6 milliards. Alors, quel est l'impact de ce budget sur le terrain? C'est-à-dire l'impact, je prends l'aspect rémunération qui peut peut-être aider les gens. Je considère qu'à 1998, pour rémunération, le plus petit, c'est-à-dire l'huissier, devait avoir 100 dollars. Et aujourd'hui, nous sommes à 2009, c'est 10 ans après, l'huissier a moins de 100 dollars. Donc, moins que. Alors que le budget, à 98, valait à moins de 1 milliard. Aujourd'hui, le budget est à 6 milliards. Donc, c'est le fonctionnaire qui a pâti.
C'est encore un projet de budget. Hein?
Oui, quel que soit le projet, parce que l'année passée, c'était à peu près 5 milliards. On vous disait que non, on n'a pas maîtrisé les effectifs et tout ça. Le problème, c'est l'application de ce budget sur le terrain. Nous, je vois ici 49% pour l'investissement. Nous avons des grands projets avec le projet chinois. Le projet chinois qui a investi dans tel domaine d'infrastructure, Et ce que le gouvernement a prévu pour ce projet-là, il pouvait les ramener au niveau des rémunérations pour combler ce vide. Parce que quand on a d'un côté la Banque mondiale, nous sommes en programme avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on nous octroie un montant quelconque pour tel ou tel investissement, ce qui fait que ce montant doit être déduit de la prévision du gouvernement et affecté à des frais sociaux. Parce que les 5 chantiers, n'oubliez pas que ça commence par les sociales d'abord. Et si les sociales, c'est quoi? C'est d'abord la rémunération de qui? Des fonctionnaires de l'État, qui est le chantier, le premier chantier, c'est-à-dire c'est le fonctionnaire qui va appliquer le programme du gouvernement. Je ne sais pas comment les gens vont croire que ça se passe au niveau des cabinets ministériels, mais non, c'est le fonctionnaire qui applique. Si le fonctionnaire n'est pas payé, il n'y a aucun programme du gouvernement qui sera bien appliqué, qui va réussir.
Charles Mukendi, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a ajouté des recettes d'environ 1,25 milliard de dollars américains. Et comment appréciez-vous ces gestes de cette commission?
Bien, vous savez, l'année dernière, pour arriver à ce budget des 5 milliards, on a fait l'évaluation, on n'a pas atteint facilement les 5 milliards prévus l'année passée. Alors, on se demande en fonction de quoi on peut, accroître ce budget d'autant de pourcents. Parce que, quand vous regardez très bien, on a eu des débats à l'Assemblée pour évaluer les taux de l'exécution du budget de l'année passée. On a senti que le gouvernement a eu tout le mal pour atteindre les 5 milliards. Aujourd'hui, on passe à 6 milliards. Et seulement, comme le disait tout à l'heure Bélard, pour initier peut-être, parce que nous aimons bien nous comparer aux autres pays, pour dire les Cameroun a fait ou tel autre pays a fait, et nous devons nous aussi nous doter d'un budget assez grand, même si, au finish, nous n'arrivons pas à réunir ce que nous faisons. Donc je me demande, en fonction des comptes sur les mines, sur les recettes de télécommunications, bien bon, on va voir, hein, parce que on peut penser qu'ils ont eu peut-être une promesse ferme des partenaires, qu'ils vont accorder un peu plus de moyens, ou alors qu'ils ont exécuté le budget de l'année passée, ils ont dégagé des flux, donc l'économie marche, il y a le secteur de production qui a donné plus d'argent pour que cette année on puisse penser à augmenter. Mais si tel n'est pas le cas, on se demande bien pourquoi on l'a fait, et est-ce seulement pour, tromper la population?
Oui, il est dit que les recettes additionnelles de ces budgets proviendront essentiellement des secteurs des mines et télécommunications. Vous qui êtes en Boujimaï, une ville diamantifère, pensez-vous que l'on peut continuer à s'essayer au secteur minier quand on se rappelle la récente crise qui a affecté ce secteur?
C'est très aléatoire parce que la crise n'est pas très loin. Et puis ce secteur, la manière dont il est géré aujourd'hui, en tout cas, rien ne nous garantit qu'il y aura réellement des recettes qui vont garantir l'exécution de ces budgets. Vous rappelez, il y a beaucoup de contrats, léonais dans ce secteur minier. On ne sait pas, la contrebande, c'est encore de ce côté-là. Tant qu'on ne l'a pas encore organisé, et on n'a pas encore organisé le secteur minier, je me demande bien s'il faut compter plus sur ce secteur-là.
De la Mbouyi, vous avez évoqué le taux d'échange qui est fixé des 950 francs congolais pour un dollar américain. Qu'est-ce qui peut garantir la stabilité de ces taux quand on sait que dans les budgets 2009, les taux prévus est de loin inférieur à celui que l'on a aujourd'hui?
Disons que les finances de l'État n'ont pas été bien gérées lors du budget passé. Vous souviendrez que plusieurs députés de l'opposition et même de la majorité avaient visé du Premier ministre de leur présenter d'abord le rapport d'exécution du budget 2009 avant de pouvoir aborder le projet pour 2010. Ça n'a pas été fait. On leur a donné des rapports qui se limitaient, je crois bien, si pas mars-juin dernier. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas venir au mois de novembre présenter un projet de budget. Vous n'avez même pas l'exécution du budget précédent, ne fût-ce que jusqu'à septembre. Ce n'est déjà pas normal. Bien, voilà. À présent, on va nous dire, voilà, on va fixer un nouveau taux de change qui nous garantit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que de la même façon, qu'on dépense au-delà des ressources, c'est ça ce qui cause vraiment cette dépréciation du taux de change. Ça veut dire quoi? On dépense au-delà de ce qu'on a mobilisé. Alors, on est obligé de recourir à la planche à billets, et les francs congolais devenant beaucoup plus nombreux sur le marché, eh bien voilà, il y a emballement des prix, une dépréciation de la valeur monétaire. C'est ça qui nous cause cela. Eh bien, on dira, on expliquera qu'il y a eu un grand manque à gagner à cause de la crise internationale, les mines qui ne sont pas bien vendues sur le marché international. Mais qui nous dit que dès cette année-ci, les produits miniers vont retrouver leur prix qu'ils avaient l'année dernière? Ce n'est pas aussi évident que ça, au point de prévoir les ressources additionnelles de plus d'un milliard de dollars. Je ne demande qu'à voir, moi, personnellement.
Et lorsqu'on prévoit plus d'un milliard de dollars comme recettes additionnelles, cela veut dire que cette commission pouvait trouver plus que ça?
Bien, je n'ai pas eu le détail, hein, je ne vais pas les contester pour contester, mais si vraiment les mines et les télécommunications peuvent rapporter plus d'un milliard en ressources additionnelles, cela voudrait dire que ces secteurs doivent avoir engrangé beaucoup plus que ça pour que les taxes relatives puissent générer plus d'un milliard de dollars. Je ne demande qu'à voir pourquoi.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a annulé mercredi dernier la décision de la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. Ce nouvel arrêt annule la décision de mise en liberté provisoire accordée à l'ancien Suisse président de la République démocratique du Congo le 14 août dernier. Qu'est-ce qui justifie le maintien en détention du leader du MLC? Écoutez la réponse du chargé des communications de la CPI en RDC, Paul Madidi.
Selon la chambre d'appel, la chambre préliminaire de celle qui avait justement pris la décision accordant la liberté provisoire à M. Bemba avait mal évalué et n'a pas tenu compte des faits pertinents. Toujours selon la chambre d'appel, la décision accordant une mise en liberté sous condition doit être une seule et indivisible décision. Toujours selon la chambre d'appel, l'identification d'un État qui accepterait d'accueillir M. Bemba et d'appliquer les conditions éventuelles doit avoir lieu avant la délivrance de la décision accordant la liberté provisoire. Pour elle, sans la procuration de l'État, la décision sur la mise en liberté sous condition est donc sans effet. L'arrêt de la chambre d'appel est bien entendu définitif. Cependant, rien n'interdit aux détenus de faire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire dans l'attente d'être jugé.
Albert Komba, avez-vous été surpris par cet arrêt de la Cour pénale internationale?
Oui, personnellement, oui, parce qu'on s'attendait à ce que, avec l'évolution qu'il y a eu dans ce dossier, avec l'argumentation qui a été présentée par la défense, et tout ce qu'on avait demandé au niveau des pays qui pouvaient accorder l'asile à M. Jean-Pierre Bemba. Il y avait aussi une autre ouverture au niveau de la CPI qui disait qu'il n'y a aucun pays qui pouvait refuser d'accueillir M. Bemba. Donc, même si il y a problème, la Cour va s'imposer pour dire non, on l'amène à tel pays, et le pays qui est membre signataire ne pouvait pas donner d'objection à l'accueillir. Curieusement, il y a encore ce problème d'accueil qui ressurgit encore. On parle aussi des divisions au niveau de la décision, au niveau de la Cour préliminaire, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un introduit une demande et que la Cour l'analyse, quelle que soit la chambre préliminaire ou la chambre d'appel, il devait réunir tous les éléments. C'est la chambre qui devait se prononcer directement avant de laisser tout ce temps ici à la défense se poumonner pour dire à la fin que non, la décision n'est pas prise en considération parce qu'il y a des décisions contradictoires au niveau des chambres du tribunal. Mais nous espérons que, comme il y a une petite possibilité le 14, au niveau que la défense se batte aussi pour réintroduire encore une autre demande qui pourrait peut-être aider à ce que M. Jean-Pierre Bemba retrouve quand même un pays d'accueil.
Charles Mukendi, l'identification de l'État d'accueil est l'une des conditions pour accorder la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba. À votre avis, pourquoi cette condition continue à poser problème?
Eh bien, je ne sais pas trop bien. qu'est-ce qui effraie les États pour accorder la liberté à Jean-Pierre, ou pour accorder plutôt l'accueil à Jean-Pierre Bemba? On nous a dit il y a quelque temps qu'il y avait des pays qui étaient disposés, mais curieusement, aujourd'hui, on dit aucun pays ne s'est prononcé. C'est vraiment dommage. Et pourtant, quand on a suivi l'évolution de ce dossier, on nous a dit qu'il y aura des réunions avec les pays concernés, les pays qu'on avait désignés, pour essayer de les sensibiliser pour accepter cela. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est curieux qu'on nous dise qu'il n'y a aucun pays qui est accepté. On ne sait pas trop bien comprendre pourquoi les pays ne veulent pas des Jean-Pierre Bemba. Est-ce un complot au niveau international contre Jean-Pierre Bemba? Qu'est-ce qu'il aurait fait à ce pays-là pour qu'aujourd'hui ils hésitent comme ils le font là?
Oui, Bernard Mouillet, votre avis?
Bien, mon avis est celui-ci. D'abord, il faut que nous sachions ce que la Chambre d'appel a dit. Elle n'a pas en fait fermé la porte en disant que Bemba ne pourra plus jamais être libre. Non. Elle a condamné la décision et annulé donc la décision de la Chambre préliminaire 2 pour deux raisons fondamentales. La première, celle-ci n'avait pas détaillé les conditions auxquelles serait astreinte Jean-Pierre Bemba en cas de liberté provisoire. Ça, c'est un. Deux, il n'avait pas été indiqué également le pays qui pourrait l'accueillir. Donc, pour ces deux raisons-là, elle a annulé la décision de la Chambre préliminaire 2. Ma première analyse est celle-ci. Nous avons donc, dans une institution judiciaire de cette importance, des magistrats qui ignorent que pour accorder la liberté provisoire à un détenu, ils doivent préciser le pays d'accueil et en même temps détailler les conditions auxquelles il sera astreint. Ils ignorent ça. Et qu'est-ce qu'ils font à ce pays? Ils ignorent donc les textes qui régissent même leur propre institution. C'est extrêmement grave. Au-delà de l'acharnement dont semble faire preuve M. Moreno Campo chaque fois qu'on dit Jean-Pierre Bemba, moi j'ai toujours estimé que Bemba a un pays qui s'appelle la RDC. Il est totalement étonnant de voir qu'il doit pratiquement pleurer derrière le Portugal, la Belgique, la Sud du Sud, comme s'il était un apatride. Son pays, c'est ici. Ce pays est signataire du protocole de Rome. C'est même le meilleur client, je peux dire, le meilleur client de la CPI, le seul qui livre à tour de bras ses enfants à cette institution judiciaire internationale. C'est lui. Eh bien, puisqu'il sait si bien collaborer, qu'il accepte d'accueillir Jean-Pierre Bemba, c'est étonnant qu'un sénateur en fonction, vice-président de la République de son État, est arrêté pour une raison extérieure à notre pays. La raison concerne le Centrafricain, pays voisin. Il n'y a aucun soutien diplomatique. On ne va jamais lui rendre visite par les officiels de son pays. C'est vrai qu'il peut même dire à la CPI, envoyez-nous, c'est notre frère.
À partir du moment où le sénateur Jean-Pierre Bemba n'a pas fait la demande, s'il lui-même n'a pas demandé d'être accueilli sur le territoire de la République démocratique du Congo,
il n'avait même pas à le demander, c'était à cette église-là de faire comprendre que cet homme est notre citoyen. Le ministre de la Justice vient de là, et il y a encore une semaine à peine. Il n'a pas rendu visite à ses compatriotes, de ses enfants, à ses compatriotes. Il est allé se contenter de visiter le beau bureau qu'il y a à la CPI, la belle salle d'audience, l'air conditionné et tout ça. Même pas rendre visite à ses enfants. Regardez lorsqu'on arrête les Français au Tchad. Qu'est-ce que Sarkozy fait ici dans ce salarié? Regardez lorsque, vous savez, la seule justice internationale, c'est bien pour les petits Africains. Il n'y a pas très longtemps, on a condamné des Américains en Italie pour ce qu'ils ont fait, combien un acte de terrorisme. Ils ont participé à un enlèvement d'un imam italien. Ces Américains nous ont-ils livrés et qui sont si respectueux de droits de l'homme? Ils les ont livrés. Ils ont été condamnés régulièrement par la justice d'un pays démocratique, l'Italie. Ils refusent de les livrer. Mais ils sont les premiers à venir ici à Kinshasa dire « Livrez Taganda, si vous ne livrez pas Taganda, vous n'êtes pas nos amis. » Mais ils livrent eux-mêmes d'abord les leurs qui ont été condamnés à l'Italie.
Albert Bemba, les dés ne sont pas encore jetés. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a encore la possibilité de faire une nouvelle demande de mise en liberté.
Oui, il a encore la possibilité parce qu'on a dit que dans les 120 jours qui précèdent une autre audience, il a le droit d'introduire encore une autre demande de mise en liberté provisoire. Et c'est comme Bella vient de le dire, c'est un problème un peu plus compliqué. On ne comprend pas pourquoi la CPI ça va de contradiction à contradiction. Pendant qu'on fait deux pas en avant, on fait encore quatre en arrière. Et finalement, ce procès va aller durer le plus longtemps possible parce qu'on ne maîtrise pas les éléments élémentaires. Nous sommes au niveau aujourd'hui de la liberté provisoire, des éléments beaucoup plus simples pour accorder la liberté provisoire. Par exemple, un pays d'origine, il n'a pas commis ce fait ici contre la République démocratique du Congo. Ce sont des faits qui ont été commis en dehors de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire en Centrafrique. Donc, étant que sénateur en fonction, il pouvait ne plus que rentrer à son pays, attendre le jugement. Donc, ça ne pose vraiment pas un problème pour son retour ici, en attendant le procès.
Est-ce que cette démarche-là, il n'appartient pas aux avocats de Jean-Pierre Bemba de l'amener?
Les avocats doivent explorer toutes les pistes pour parvenir à cette question. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient restreints à telle ou telle considération, tout ça. Non. Ils doivent exploiter toutes les pistes pour permettre ne plus qu'à Jean-Pierre Bemba d'être à liberté, d'avoir une morale un peu calme et d'affronter la seconde étape qui est le procès. Et nous avons dit à son temps, quand M. Jean-Pierre Bemba était arrêté à Bruxelles, nous avons dit que non, ce n'était pas le moment de solliciter la liberté provisoire au niveau de Bruxelles. Il faut attendre qu'il soit acheminé jusqu'au niveau de la CPI, c'est à ce moment-là qu'on pouvait demander la liberté provisoire. Maintenant que les choses sont faites, ils doivent actionner tout ce qu'il faut pour permettre, ils doivent explorer toutes les pistes. Pourquoi pas la défense ne peut-elle pas demander au gouvernement congolais? Même pas demander parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un Congolais. Comment on va même demander pour qu'il revienne ici?
Charles Mukendi, le parti du sénateur Jean-Pierre Bemba, le MLC, parle de la politisation de cette affaire. Est-ce que cette affaire a un caractère politique, à votre avis?
Bien, on peut penser à la politisation, avoir des revirements auxquels on assiste. Tantôt on refuse, tantôt on accepte. Donc c'est curieux quand même de voir qu'il y a une sorte d'acharnement. En fait, bon, on parle de l'acharnement contre Jean-Pierre Bemba. Bon, politisation, ils sont en droit de les penser parce que avoir les contradictions qui émaillent en fait le cours de cette affaire, on se demande bien s'il n'y a pas politisation. Mais néanmoins, il faut dire aussi que la Cour pénale internationale, c'est une jeune institution qui se recherche encore. Peut-être que tout cela est lié à cette jeunesse-là qui est en train de rôder la machine, une machine lente à se mettre en place, c'est vrai, et c'est tout cela aussi que dont Jean-Pierre Bemba est victime aujourd'hui. Donc, il y a de cela aussi, la jeunesse de septembre. On n'a pas assez d'expérience dans le passé d'une cour au niveau international de ces cabarets. Donc, vous comprenez que, bien, il y a des erreurs, c'est vrai, et ils peuvent penser à une certaine politisation.
Benamoui, est-ce que l'absence du sénateur Jean-Pierre Bemba a eu un impact négatif sur son parti, le MLC?
Bien sûr, il y a un impact négatif.
Lequel?
Vous remarquez vous-même un peu une certaine cacophonie qu'il y a au MLC aujourd'hui. Vous avez José Makila de son côté, vous avez l'autre côté François Mwamba et les siens, et vous avez les Sambo Colombé qui. Chacun tire à eux et à Dua, c'est vraiment des vies de francs-tireurs, chacun tire dans son sens. Vous avez un gouvernorat qui se présente, bien, il y a trois candidats, l'indiscipline s'installe un peu dans le parti. Et Bolenge a refusé jusqu'au bout de laisser la place aux candidats officiels du parti, jusqu'au point où ils sont partis vraiment en ordre dispersé. Si même avec sa personnalité, son charisme qu'il avait été présent, je crois que ça continuerait vraiment, même à ce qu'il ne puisse pas perdre l'Équateur comme ils ont perdu présentement.
Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette affaire?
La leçon que nous pouvons tirer, je crois que les auditeurs de Radio Capi me reconnaissent quand même ça parce que souvent ils m'appellent pour me le dire. La leçon que nous pouvons tirer, c'est celle-ci. Il faut retirer notre pays de ce processus de Rome. Vous savez, c'est toujours une bonne chose lorsque on arrête encore les autres. Vous dites oui, tant mieux, nous prenons acte. Bien, vous avez ouvert la porte au loup, il est entré dans la bergerie. Le jour où il va commencer à dévorer soit vos propres enfants, soit vous-même, là vous allez dire non, non, il y a un complot international contre nous, comme on a fait contre Lumumba, comme on a fait contre XY, etc. Tant qu'il est temps, résolvons nos problèmes seuls ici. L'autre fois, j'avais entendu quelqu'un dire « Notre justice n'étant pas en mesure de traiter les problèmes qui se posent au pays, allons-y à la haie. » Bien, la justice congolaise traite quand même plein de milliers de dossiers chaque jour qui passent ici. Bien, si nous estimons que notre magistrature ne fonctionne pas bien, supprimons le ministère de la justice, renvoyons tous nos magistrats en chômage, et puis nous allons payer la sous-traitance à la justice angolaise, ou congo-brésilienne ou gabonaise, voilà.
Merci, nous passons à notre troisième thème ce soir. Deux Norvégiens accusés d'avoir assassiné le chauffeur Abedi Kasongo sur la route de l'Ituri en province orientale ont été condamnés à la peine capitale hier à Kisangani par la cour militaire. Les deux Norvégiens sont accusés d'avoir assassiné le chauffeur Abedi Kasongo au mois de mai dernier sur la route de l'Ituri. Ceux-ci sont également contraints au paiement à titre des dommages et intérêts de plus de 500 millions de dollars américains aux parties civiles pour les préjudices causés. La sentence a été prononcée hier jeudi au cours d'une audience solennelle de plus de 3 heures organisée dans la salle des spectacles de l'Alliance franco-congolaise. Explication d'Odlive Omondo.
Le verdict vient de confirmer le jugement rendu au premier degré par le tribunal militaire de garnison en septembre dernier. Les deux condamnés sont également sommés de payer des amendes de plus de 500 millions de dollars aux parties civiles régulièrement constituées, notamment la République démocratique du Congo, ainsi que la famille et les proches du défunt. Cependant, la cour a jugé non recevable l'action à l'indemnisation introduite par les orphelins du chauffeur Abedi Kasongo. Selon le premier vice-président de la cour militaire de la province orientale, le colonel Moli Batewa, cette partie civile a été constituée en retard au terme de la loi. Militaire de la garde royale norvégienne, les condamnés n'ont pas réagi à l'énoncé du verdict final. Sachez que les deux hommes, Joslov Moland et Joshua French, étaient poursuivis notamment pour assassinat, tentative d'assassinat, espionnage, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre et association des malfaiteurs. Kisangani, Goblivo Mondo, Radio Okapi.
Albert Omba, je rappelle que vous êtes journaliste à Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Et quelle lecture faites-vous de cette affaire?
Oui, je fais deux constats. Le premier, que le montant des dommages est trop élevé.
500 millions de dollars.
500 millions de dollars pour l'assassinat d'un individu, c'est quand même un peu trop.
Est-ce que 500 millions de dollars représentent la valeur d'un être humain?
Ça ne représente pas la valeur d'un être humain, mais c'est un peu trop quand même. Bon, je ne maîtrise pas les chiffres, mais 500 millions de dollars. Surtout que dans la partie civile, on constate que le gouvernement congolais réclame 500 millions. Et donc, il y a 1 million qui reste pour la famille. Dommage aussi qu'on n'ait pas accepté les doléances des enfants du défunt. Alors là, c'est vraiment dommage, parce que même si en retard, le juge pouvait remettre encore l'audience pour compléter les documents dans les dossiers, et remettre l'audience à plus tard, et réunir tous les documents pour rendre un bon jugement. Et notre observation, c'est au niveau de deux Norvégiens. Deux Norvégiens qui circulent à travers la République avec des armes et tout ça, et sont accusés d'espionnage. J'espère que s'ils sont parvenus à tuer leur chauffeur, c'est qu'ils avaient découvert peut-être une activité beaucoup plus importante que ces gens sont venus faire ici. Et c'est comme ça, la seule solution qui leur restait, c'était de l'exécuter. Et est-ce que le gouvernement congolais a pris soin, même s'il est condamné à mort? Nous savons que la République démocratique du Congo est sur un moratoire d'au moins jusqu'à présent, et pour ce qui est de la condamnation de la peine capitale. Donc, c'est une peine qui ne sera pas exécutée, qui pouvait être peut-être communiée à une peine à perpétuité. Donc, c'est quand même dommage qu'on puisse constater que les étrangers vont circuler à travers un pays comme le nôtre, et avec des armes, et donc les services de renseignement, ils n'ont pas pu identifier ces gens-là, comment on a pu les laisser circuler avec des armes à travers le pays, sous la réserve de je ne sais pas où ou quoi.
Mais je crois qu'il faut aussi féliciter ces services de renseignement, parce qu'ils sont finalement arrivés à mettre la main sur ces deux Norvégiens.
Ils ont mis la main, parce que le Congolais était tué. Si le Congolais n'était pas tué, si les Norvégiens parvenaient à corrompre le Congolais, ils sauront quand même ce qu'ils sont venus faire. Ils allaient s'envoler comme ça et rentrer avec le fruit de leur travail, sans que nous on sache de quoi il s'agissait. c'est parce que le Congolais a été victime et a eu mort d'homme qu'on a pu renforcer les recherches pour découvrir cela.
Charles Moukendi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la radio-télévision de Bukassai, qui émet depuis Mbujimayi au Kassai oriental. Et maintenant que ces deux Norvégiens sont condamnés à la peine capitale, jusqu'à quand ils pourraient rester en République démocratique du Congo, à votre avis?
C'est toute la question, parce que en fait, il intervient toujours des négociations entre pays. On voit souvent les pays du Nord, par rapport aux pays du Sud que nous sommes, souvent on vient nous imposer des choses. Les Norvégiens vont débarquer d'ici là pour entreprendre des négociations, parce que je ne suis pas très sûr que ces gens-là vont rester en République démocratique du Congo pour, en fait, leur peine, pour subir cette peine-là. Donc, je me demande très bien si réellement la République démocratique du Congo va tenir, si jamais leur pays d'accueil, leur pays d'origine va demander de les ramener, de les rapatrier chez eux, pour qu'ils aillent continuer là-bas leur peine.
Mais là, oui, si ce scénario se produisait, c'est-à-dire la Norvège initie des négociations avec l'État congolais pour les transfermer de ces personnes chez eux pour qu'ils aillent purger la peine sur les territoires norvégiens, pensez-vous que l'État congolais doit lâcher du lest?
Bien, voilà, je crois que c'est le dernier élément de mon analyse, parce que mon analyse comporte trois éléments, en fait. Le premier, disons d'abord d'emblée, que je ne commente pas en tant que démocrate les décisions de justice, mais le premier élément de mon analyse, c'est que s'il y a eu condamnation en appel, c'est qu'il y a bien eu délit quelque part. Vraiment, on a constaté qu'ils sont coupables. Voilà, c'est le premier élément. Dernier élément, ça montre quand même que notre justice, contrairement à la CPI, notre justice fonctionne rapidement, instruit le dossier rapidement et rend le verdict très rapidement. On n'attend pas 5 ans comme Thomas Lubanga qui a la haie jusqu'à aujourd'hui. On montre que nous, on a des magistrats qui savent instruire le dossier assez rapidement.
Pour chapeau à la justice congolaise.
Pour chapeau, franchement. Troisième élément, si les deux Norvégiens n'ont même pas bronché à l'énoncé du verdict, un verdict aussi catastrophique, c'est parce qu'ils savent bien que leur pays va sonner bientôt le côté diplomatique pour obtenir leur transfert en Norvège. Et il va l'obtenir, je vous assure, il va l'obtenir. Et une fois qu'ils seront transférés en Norvège, ils seront libérés. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous vous souviendrez, lorsque on a condamné des gens au Tchad lors de l'opération L'Arche de Zoé, ils ont été condamnés, la France a pesé pour qu'on les libère. On ne peut pas accepter que des Européens puissent croupir dans des prisons de petits pays africains, c'est pas normal. On les a transférés en France, une fois là-bas, on a obtenu le débit de les gracier, on les a graciés, ils sont libres en France.
Pourquoi vous qualifiez voilà. Les pays africains de petits pays?
Mais c'est comme ça, on nous regarde avec condescendance de l'autre côté de la frontière. C'est ça la réalité, cher ami. C'est comme ça que ça se présente. Alors, c'est comme ça aussi que ça s'est passé en Libye. La Libye a condamné des médecins bulgares qui étaient condamnés régulièrement par la justice libyenne pour avoir inoculé du sida aux enfants libyens. Eh bien, non seulement, ce n'est même pas seulement la Bulgarie qui a protesté, toute l'Union européenne a porté le problème sur ses épaules. Madame Sarkozy est partie jusqu'en Libye. On ne peut pas accepter que des Bulgares coupissent en Libye. Ce n'est pas acceptable. C'est l'inverse qui est vrai. C'est nos enfants qui doivent aller dans les prisons européennes, même sous couvert de la CPI, comme les Africains qui partent là-bas. Malheureusement, c'est ça la réalité. Les Norvégiens, on va les libérer, ils partiront chez eux, ils ont libéré, ils s'isoleront la liberté dans leur pays d'origine, malheureusement.
Albert Comba, même si cette éventualité s'est produirait, si ces Norvégiens obtenaient la liberté, et vous pensez que cela se ferait sans contrepartie?
Non, je crois que la partie congolaise va tirer l'épingle du jeu à demander une caution assez importante. Elle va tenir à ce qu'on donne un montant beaucoup plus consistant pour les libérer.
Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Héritier Tidiakala était à la technique, Alain Irung à la réalisation, assisté de Kéline Kouké, sous la supervision de Martin Sebouzangwe et devant ses micros, Guy Maté. Merci et excellent week-end sur Radio Okapi.